Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Votre émission d'information et de débat en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et aujourd'hui, pour cette émission, nous avons choisi de débattre d'un phénomène qui interpelle à la veille de tous les scrutins d'une manière générale et en particulier à la veille des grandes échéances nationales du printemps prochain, c'est l'abstention. Les raisons de l'abstention, les raisons aussi de la montée de l'abstention, en particulier lors des derniers scrutins. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Michaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint de l'Institut Opinionway et également auteur d'un livre qui va sortir, qui sort aujourd'hui d'ailleurs, Le Sacre de l'Opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages aux éditions du Cerf. Et en tant que spécialiste de l'opinion, on avait envie de vous entendre. Peut-être juste un mot pour lancer le débat. On a atteint deux pics historiques d'abstention. Lors des élections législatives, le deuxième tour en 18 juin 2017, avec 57,5% d'abstention, ça n'était jamais arrivé sous la Ve République. Mmh. Et aux élections municipales, aussi au deuxième tour, le 28 juin 2020, on a atteint également un sommet à 58,4%, et ça s'est un petit peu confirmé l'année suivante. On a eu également des taux d'abstention très élevés aux élections régionales et départementales. Oui. Est-ce que ça veut dire que le non-vote, le refus de voter, de s'exprimer lors des scrutins démocratiques est un phénomène qui s'ancre durablement dans notre démocratie?
Alors, en tout cas, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur très nettement, vous venez de le rappeler, hein, les différents records d'abstention qui ont été battus aux différentes élections. On pourrait même inclure dans ce cycle de montée de l'abstention le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, hein, puisqu'on avait une abstention de plus de 25%, qui est liée d'ailleurs à la configuration très particulière de ce second tour, hein, ce front républicain. On sait aussi, grâce aux études qui ont été réalisées lors de ce second tour, que tant les électeurs de Jean-Luc Mélenchon que les électeurs de François Fillon se sont davantage abstenus que les autres, peut-être parce qu'ils étaient davantage déçus de ne pas voir leur candidat figurer au second tour. Bref, on a un cycle abstentionniste qui se prolonge maintenant depuis plusieurs scrutins. Est-ce que c'est quelque chose de structurel et qui est appelé à durer mais qui va toucher encore plus la prochaine élection présidentielle, ou est-ce que au contraire c'est quelque chose qui est purement conjoncturel? Alors il y a des éléments qui nous incitent à penser que c'est conjoncturel. Le premier élément, c'est évidemment la crise sanitaire. Quand on regarde les différents sondages qui ont été réalisés au moment des élections municipales, au moment des élections régionales, on a une partie significative du corps électoral qui nous dit ne pas être allé voter par peur d'être contaminé, par peur d'être contaminé par le coronavirus dans le bureau de vote, pardon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a éloigné une partie significative des électeurs des urnes. On peut faire l'hypothèse que cette pandémie sera véritablement derrière nous, il y a une partie importante du corps électoral qui reviendra vers les urnes.
Alors, c'est vrai qu'il y a effectivement cette double lecture. Il y a celles et ceux qui disent c'est plutôt conjoncturel. Alors, j'ajouterai un autre argument à la conjoncture qui, évidemment, est marqué par la crise sanitaire, mais dont on peut espérer quand même sortir un jour. Il y a aussi ceux qui disent, ma foi, c'est une crise de l'offre politique. Il y a une usure des grands partis traditionnels et les offres politiques émergentes qui sont marquées par la contestation du système existant, n'entraînent pas non forcément une adhésion plus forte et nouvelle. Et finalement, si l'offre politique était amenée à se régénérer, peut-être que ça amènerait certains électeurs à revenir aux urnes. étant entendu qu'il y a aussi, et là on vous demande un peu de nous éclairer, ceux qui disent qu'il y a une approche plus systémique, c'est plutôt une crise de la citoyenneté, une crise de l'acte de voter, et en particulier, c'est notre invité dans la deuxième partie de l'émission, aujourd'hui des chercheurs en sciences politiques qui ont écrit un livre qui s'appelle « L'extinction du vote », et qui disent que selon eux, dans un certain nombre d'enquêtes, en particulier chez les jeunes générations, l'acte de voter ne fait plus sens. Et là, c'est plus profond.
Oui, alors c'est plus profond. Alors il y a plusieurs éléments qui se combinent. Il faudrait aussi mener une analyse scrutin par scrutin. L'élection présidentielle, nous savons qu'en France, c'est l'élection qui mobilise le plus. Parce que c'est le président de la République qui est la clé de voûte des institutions, parce que c'est la fonction qui détient le plus de pouvoir, parce que c'est aussi la campagne électorale qui est la plus visible, qui est la plus longue, qui est la plus médiatique. Tout ça, ça produit de la participation électorale. Il faudra voir donc si on n'a pas une abstention découplée, avec d'un côté une abstention qui reste relativement faible pour l'élection présidentielle, et puis de l'autre côté une abstention qui est très forte lors des scrutins qui sont dits intermédiaires, les élections régionales, les élections municipales, les départementales et pourquoi pas les élections législatives. Donc ça, il y a peut-être cette analyse-là à conduire en essayant de dissocier la présidentielle d'un côté, les autres types d'élections de l'autre. Pour revenir à votre question, aux hypothèses que vous soulevez, il y a effectivement dans les raisons classiques de l'abstention le fait, mis en avant par les abstentionnistes, de ne pas être intéressé par la campagne électorale. Ça, c'est la première réponse qui souvent est citée, donc un débat électoral à leurs yeux de mauvaise qualité, qui ne parle pas des réalités de leur quotidien, donc une forme de désintérêt par rapport à la campagne électorale. Il y a aussi, et vous l'avez bien cité, le fait de ne pas se retrouver dans l'offre électorale existante. C'est le fameux item « aucune liste ne correspond à vos attentes ». Par exemple, ça, lors des premiers tours des élections régionales, c'est un quart des abstentionnistes qui disaient ne pas trouver de candidat dans lequel ils se retrouvaient. Et puis, il y a ce que vous disiez aussi, qui est peut-être plus profond, la perte de sens du vote et de la politique. L'idée que son vote ne changera rien, l'idée que le bulletin de vote n'a plus d'efficacité, n'est plus un outil de transformation du réel, ça c'est une idée qui est de plus en plus forte, qui est de plus en plus mise en avant par les abstentionnistes pour justifier leur comportement. Et puis il y a aussi l'idée que, et c'est très proche, l'idée que la politique ne les intéresse pas. Que ces électeurs qui se détournent des urnes sont aussi plus fondamentalement des électeurs qui s'isolent, qui se détournent de la politique et qui se détachent d'une certaine manière de la communauté nationale. On pourrait ajouter, et je termine par là, un dernier point qui est peut-être un peu plus conflictuel, c'est l'idée que les abstentionnistes cherchent à protester contre la manière dont le pays est dirigé à travers leur non-vote. Donc c'est l'utilisation de l'abstention pour envoyer un message de protestation politique. Voilà, on voit bien que là, effectivement, des réponses qui sont très très profondes et qui sont peut-être les prémices d'un mouvement de dépolitisation qui serait vraiment important, en tout cas quelque chose à traiter pour les responsables politiques.
Oui, parce qu'effectivement, un système démocratique où il y a de moins en moins des électeurs, ça ne peut pas ne pas interpeller à minima les responsables politiques, mais aussi l'ensemble de la société, puisque c'est un petit peu le pacte démocratique et républicain qui serait fragilisé.
Oui, ça pose des difficultés. Alors non pas des difficultés techniques, puisque quand vous êtes élu, même avec une abstention extrêmement forte, vous êtes quand même élu, donc vous bénéficiez d'une légitimité juridique pour prendre des décisions et pour agir et pour contrôler l'administration, etc. Donc juridiquement, il n'y a pas de difficulté, mais en revanche, on a un vrai problème politique. Quand vous êtes élu par une partie extrêmement faible du corps électoral, Ben, ça pose un vrai problème de représentativité politique, et ça vient limiter la portée des décisions que vous pouvez prendre en tant qu'élu.
Alors, il y a beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait évoquer sur effectivement la crise de la participation, la crise civique, le manque d'entrain des citoyens pour aller choisir leurs représentants. Moi, je voudrais aussi qu'on s'attarde un instant sur les solutions qui peut-être sont plébiscitées par l'opinion. J'en citerai quelques-unes. D'abord, je crois que l'instauration du vote blanc est assez massivement plébiscitée, c'est-à-dire la reconnaissance du vote blanc. Oui. Une partie des électeurs disant, puisque mon vote ne compte pas, et si je ne peux pas exprimer mon refus des offres politiques, eh bien, je préfère m'abstenir.
Oui.
Et puis, également, sans doute, d'autres réflexions, que ce soit la représentativité des élus, on pense à la proportionnelle, en tout cas une dose de proportionnelle qui permettrait aussi à des plus petits mouvements d'opinion d'exister, alors qu'aujourd'hui, le système majoritaire à deux tours derrière l'élection présidentielle avec le quinquennat écrase un peu systématiquement toutes les petites écoles de pensée. Et puis, on a aussi des questions sur les modalités pratiques du vote. Le vote par correspondance, qui aujourd'hui est marginal, ou l'instauration du vote électronique, distance, puisqu'on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un monde, dans un rapport au travail qui change aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que certaines ou toutes ces solutions soient un jour mises en œuvre pour essayer de faire revenir les gens vers l'acte de voter ?
Oui, vous avez raison. Là, on voit bien deux séries de mesures qui pourraient être prises pour améliorer le civisme des Français. Il y a effectivement des mesures techniques. Et la procédure électorale, c'est une procédure qui a évolué au cours des années. On a mis des urnes transparentes, on a mis des isoloirs, tout ça n'existait pas précédemment. Et donc, il n'est pas anormal de continuer à faire évoluer cette procédure. Le vote électronique est déjà en place dans toute une série de villes, pourrait être généralisé. On peut envisager aussi le vote par correspondance, comme ça se fait aux États-Unis depuis plusieurs années. On peut penser aussi au vote anticipé, qui viendrait rompre l'unité de temps du scrutin. On voterait pas uniquement le dimanche, mais peut-être une semaine ou deux semaines auparavant.
Plusieurs jours
avant la date exacte, ce qui poserait d'ailleurs beaucoup de difficultés aux instituts de sondage, mais c'est un autre sujet. Donc il y a sans doute des mesures techniques auxquelles il faut réfléchir. Il y a aussi la question de l'inscription sur les listes électorales qui pourrait peut-être être encore
qui a été un petit peu simplifié là, parce que maintenant on peut s'inscrire jusqu'à quelques mois avant le scrutin, alors qu'avant, c'était l'année qui précédait.
Voilà, mais on pourrait encore aller plus loin. Vous savez que dans certains États, aux États-Unis, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales le jour même de l'élection. Donc là, ça permettrait encore de récupérer une partie des électeurs qui ne peuvent pas voter, non pas parce qu'ils ne le souhaitent pas, mais parce qu'ils en sont empêchés administrativement. Donc il y a des solutions techniques, et puis il y a aussi des solutions d'ordre politique. Proposer une offre électorale différente, renouvelée, peut-être davantage en adéquation avec les attentes des électeurs, à la fois sur le profil des candidats et puis aussi sur les différentes propositions, sur les différentes mesures. Évidemment c'est un point qui est fondamental. C'est le rôle d'une campagne électorale, c'est le rôle des candidats d'intéresser les électeurs, d'abord de les informer sur la date de l'élection, et puis ensuite de faire vivre un vrai débat électoral qui tranche les enjeux, qui prend en charge les attentes des citoyens pour les mobiliser et les faire voter, leur montrer quels sont les enjeux de l'élection, quelle est l'importance de ces enjeux, et puis les intéresser à participer à l'élection. Donc je crois qu'il faut jouer un peu sur les deux tableaux simultanément, c'est-à-dire à la fois améliorer la procédure électorale, faire en sorte qu'elle soit plus simple, qu'elle soit plus rapide, qu'elle soit peut-être moins dangereuse aussi au plan sanitaire, hein, c'est le début de notre discussion, et puis réintéresser, c'est un travail permanent, réintéresser les Français à la vie politique telle qu'elle se déroule.
Alors dernière question, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais juste une petite provocation. Des gens, bon, ils sont pas forcément très nombreux, mais qui disent qu'il faudrait moins de sondages parce que finalement les sondages, oui, ça donne pas tellement envie d'aller voter puisque on sait, oui, pratiquement par avance les résultats, ouais, à quelques points près. Donc je vais vous laisser une courte réponse sur ce.
Oui,
sur ce
alors point. c'est un très vieil argument qui a été employé, je crois, pour la première fois lors du référendum de 1972, qui consiste à dire que les sondages et essentiellement les intentions de vote, parce qu'elles annoncent le résultat, ont un effet démobilisateur sur le corps électoral. Ça n'a jamais été prouvé par des enquêtes de sciences politiques. On peut tout à fait affirmer l'inverse, c'est-à-dire que dans certaines configurations, notamment des configurations où le scrutin d'après les sondages est très serré, dans ces configurations-là, peut-être que les sondages auraient au contraire un effet de mobilisation sur des électeurs. Tout ça est vraiment très difficile à démontrer, mais ce n'est pas un argument nouveau.
Merci beaucoup Frédéric Michaud. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint d'Opinion Way, que vous êtes également l'auteur d'un livre qui sort aujourd'hui, Le Sacre de l'Opinion. Une histoire de la présidentielle et des sondages aux décisions du CERF. Et on vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui. Et puis on avait encore plein de questions à vous poser, mais bon, c'est le principe d'une émission. Il faut un début et une fin. Merci beaucoup, Frédéric Michaud.
Merci à vous. À bientôt.
Et si on en parlait du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et cette semaine, nous avons choisi de traiter le sujet de la montée de l'abstention, la manière dont ce phénomène est monté, scrutin après scrutin, et en particulier depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, comme nous l'a rappelé Frédéric Michaud, et ensuite ça s'est confirmé lors des scrutins qui ont suivi. Et pour interroger ce phénomène, j'ai le plaisir de recevoir Tristan Haute. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille, et vous avez co-dirigé avec Vincent Tibéri un ouvrage collectif dont le titre est tout à fait évocateur, Extinction du vote, aux éditions du PUF. Et donc vous analysez les raisons de cette désaffection civique, de la manière, les raisons pour lesquelles les citoyens en nombre de plus important boudent les urnes à l'occasion en particulier des derniers scrutins en France. Donc on a immédiatement envie de vous interroger pour savoir si on va progressivement ou rapidement vers une perte de sens et finalement une extinction de l'acte de voter qui aura correspondu à un moment de nos démocraties mais qui aujourd'hui semble malmené.
Alors, on risque d'aller vers le mot est fort, hein, une extinction du vote. L'idée qui est pointée dans ce titre, c'est plutôt l'idée que l'abstention n'est pas finalement quelque chose de conjoncturel qui arriverait comme ça à une élection et qui pourrait reculer à un scrutin suivant. C'est un processus, la montée de l'abstention, qui s'installe sur le temps long, qui remonte, vous l'avez dit, pour cette séquence au second tour de la présidentielle de 2017, mais cela fait écho finalement avec une hausse de l'abstention qu'on avait déjà enregistrée lors d'autres scrutins, hein. Les premiers tours de présidentielle, notamment je pense à ceux de 2007, de 2012 et dans une moindre mesure de 2017, étaient peut-être des finalement des épiphénomènes participationnistes. Non. Ce qu'on voit plutôt, c'est une abstention qui progresse certes dans tous les milieux sociaux, mais qui finalement n'est pas répartie également dans tous les milieux sociaux et notamment dans toutes les générations. Le vote finalement se caractérise de plus en plus comme une pratique qui est le fait de certains groupes sociaux. Mon collègue Vincent Tibéri parle de plus en plus d'urnes qui sont non seulement de plus en plus boudées, mais de plus en plus grisonnantes, pour dire que finalement, ceux qui les fréquentent le plus, ce sont les électeurs les plus âgés et en leur sein notamment les électeurs les plus diplômés qui appartiennent plutôt aux couches supérieures de la société.
Et donc, vous défendez l'hypothèse ou la thèse selon laquelle ce n'est pas simplement une crise de l'offre politique, comme on l'entend parfois dans un certain nombre de débats, ça serait, la crise des partis, la crise de la représentation, mais vous allez plutôt sur une crise de la citoyenneté, une crise civique qui touche finalement au sens même du vote. Le vote serait devenu, si on vous comprend bien, en fonction de son âge et de son origine sociale et de son niveau de diplôme, un rite auquel on est attaché, mais soit un rite qui a perdu tout sens et finalement auquel on ne s'intéresse plus.
Tout à fait. Alors, on ne parle pas forcément de crise de la citoyenneté, parce que ce qu'on montre, c'est que justement la citoyenneté, ce n'est pas tant qu'elle est en crise, elle a tendance à se recomposer, elle se recompose autour, évidemment, d'un rapport à la politique, mais dans lequel le rapport au vote, notamment dans les nouvelles générations, n'est plus central. Le vote ne suffit plus. Ce que dit mon collègue Vincent Tibéri, c'est que justement, dans ces nouvelles générations, une partie beaucoup plus importante des électeurs potentiels, des citoyens, vont privilégier d'autres formes de participation politique et vont être beaucoup moins déférents, vous l'avez dit, vis-à-vis de l'acte électoral, beaucoup moins l'ériger en rite citoyen, et donc beaucoup moins l'investir. Avec cette idée, finalement, que le vote pour les générations les plus anciennes est peut-être encore un acte citoyen chargé de symboles, mais que pour beaucoup d'autres, il n'est qu'une parenthèse au cours d'un dimanche peuplé d'activités sociales et de loisirs, parenthèse qui peut tout à fait, à la faveur de certaines incompatibilités, disparaître et ne plus constituer un rituel citoyen comme il aurait pu l'être pour d'autres générations.
Alors donc un acte de voter de moins en moins incontournable. Néanmoins, il y a quand même, alors ça c'était les chiffres donnés par Frédéric Michaud, un abstentionniste sur quatre qui considère ne pas aller voter parce qu'il ne se reconnaît pas dans l'offre politique. Donc ça veut dire qu'il y a aussi trois abstentionnistes sur quatre qui ont d'autres, motivations ou démotivations en fonction du point de vue où on se place. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi une crise de la manière dont la politique est perçue aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire peut-être comme moins centrale ou moins capable de peser sur les événements et sur le destin collectif et qui, rend aussi, en particulier pour les plus jeunes générations, le sentiment que finalement, à quoi bon ?
Alors, tout à fait. Ce qu'on constate, c'est finalement que le vote a été réduit finalement l'élection, la désignation d'un candidat, d'un président, d'élus, de maire, etc. En réduisant le vote à cette désignation, on a aussi contribué à le décharger politiquement, et notamment à mettre de moins en moins en avant des alternatives politiques en termes programmatiques, en termes de propositions, en privilégiant ce que renforce par ailleurs le commentaire politique tel qu'on le pratique aujourd'hui, la vision de la présidentielle plus comme une course de petits chevaux que comme un débat d'idées, un débat programmatique où s'affronteraient des visions de la société française, du monde, etc. Donc le vote a été aussi victime de finalement cette conception de la politique, finalement cette conception de l'offre politique et pas seulement la composition de l'offre politique d'élection en élection. Alors il est vrai que l'offre politique peut jouer un rôle. On l'avait vu au second tour de 2017 où on avait vu un regain d'abstention entre les deux tours, ce qui était assez inédit pour une élection présidentielle. Il fallait remonter à 1969 pour cette configuration, pour avoir ce constat-là. Et pourquoi 1969? Parce qu'on avait eu un second tour assez restreint entre un candidat de centre-droit et un candidat gaulliste, hein, de droite. Et finalement, en 2017, on se retrouve avec un affrontement, là aussi atypique, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Alors, vous l'avez expliqué, le phénomène de l'abstention ne touche pas toutes les catégories de la population de la même manière. Est-ce qu'il n'y a pas justement un paradoxe à voir que l'acte de voter n'est plus automatique, naturel chez les jeunes, alors que malgré tout, il y a des pans entiers de la jeunesse qui sont très mobilisés. On pense aux manifestations sur le climat, on pense aussi à la manière dont aujourd'hui on est amené à s'exprimer, à voter, que ce soit les jeux télévisés, que ce soit des consultations d'assurance, de banque, on vous demande votre avis tout le temps. Et donc on est noyé comme ça dans une sorte de démocratie où on fait semblant de vous demander de votre avis, mais finalement l'acte le plus peut-être le plus structurant, le plus significatif, lui, on y renonce. Mais on y renonce pourquoi? Parce que les modalités de vote sont obsolètes, parce que il y a un manque de représentativité, parce qu'on ne se sent pas reconnu dans son vote.
Parce qu'on le perçoit comme plus structurant, c'est-à-dire que le vote n'est pas par essence, le vote au scrutin politique n'est pas par essence l'acte le plus structurant du rapport au politique. Et d'ailleurs, le fait que une part non négligeable des jeunes participent aux manifestations pour le climat, par exemple, ou aux manifestations contre le racisme et les violences policières, c'est la preuve que les jeunes ne sont pas dépolitisés, en tout cas pas plus dépolitisés que les générations les plus anciennes. Et que finalement leur abstention n'est pas non plus le signe d'un retrait politique en attendant de s'installer tranquillement. Non, ce qu'on constate, c'est plutôt une participation qui va se faire par d'autres biais et qui va se faire de manière critique. Le vote, finalement, n'est plus perçu comme un outil qui permet d'influencer le système politique, de mettre en avant des propositions, des projets politiques, de les faire advenir, et qui est beaucoup plus réduit à finalement l'idée de valider une candidature ou plutôt d'éviter une candidature. Des collègues qui ont travaillé sur une analyse beaucoup plus qualitative du vote à partir de portraits, notamment un ouvrage qui est sorti sous la direction de mon collègue Eric Agricoliansky, montre que finalement ce qui est important aujourd'hui dans les choix des citoyens, ce sont les dégoûts. Ce ne sont plus les goûts sociaux, mais ce sont les dégoûts sociaux, et c'est par exemple le rejet d'une offre potentielle de second tour qui va motiver le vote pour tel ou tel candidat. Dans cette configuration, le vote, l'abstention de ces jeunes, elle peut aussi être perçue comme finalement un dégoût vis-à-vis de l'offre politique en général, mais pas finalement de ce qui nous est proposé, mais de ce qui est constitutif de la proposition d'offre politique, c'est-à-dire aujourd'hui un régime présidentialiste où on choisit un président tous les 5 ans et on a l'impression que le vote aux élections intermédiaires, en tout cas c'est ce qui se véhicule dans ces segments de la jeunesse, ne participe plus, donc aux élections municipales, départementales, régionales, ne participe plus à influencer finalement l'orientation politique du pays.
Alors, si on vous écoutait, on aurait tendance à penser que peut-être dans les régimes parlementaires, où il est moins question d'élire une personne que d'élire un programme, ou en tout cas d'élire un parlement qui ensuite contrôle le gouvernement, est-ce que ça veut dire que dans les autres pays, plus parlementaire, moins présidentiel, on a moins ce phénomène de l'abstention?
Alors, on peut moins l'avoir, mais c'est pas forcément le cas du tout. D'abord parce que le processus de personnalisation de la vie politique, il peut être lié au type de régime politique, à la forme constitutionnelle du régime, mais il peut tout à fait s'en affranchir et il touche l'ensemble des pays. Finalement, le brouillage des clivages politiques, on le retrouve dans bien d'autres pays qui ont aussi finalement des régimes qui ont aussi des régimes parlementaires. Donc ce qu'il faut, ce à quoi il faut s'intéresser, c'est finalement plutôt la structure de la vie politique, la manière dont on a dont on médiatise finalement cette vie politique, la manière aussi de s'y impliquer, d'y impliquer les citoyens localement, nationalement. C'est plutôt ça qui doit être questionné, plutôt qu'une simple forme de régime qui peut être une partie de la solution, mais qui ne doit pas être l'ensemble de la solution. On peut aussi finalement s'intéresser aux modalités de vote. On voit que dans d'autres pays qui peuvent avoir en apparence des régimes plus ouverts, on a un certain nombre d'entraves au vote qui existent et qui vont notamment toucher certains groupes sociaux. Le risque étant évidemment, et on le voit en France, ce que disent Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, c'est qu'une minorité sociale devienne majorité électorale et inversement, qu'une majorité sociale devienne minorité électorale. Aujourd'hui, c'est le risque. Alors, on peut avoir des solutions institutionnelles, hein, sans aller jusqu'au changement de régime. Certains parlent de faciliter les procédures de vote. Le problème, c'est que ces solutions-là, quand elles ne, finalement, questionnent pas le fond du rapport à la politique, elles ont tendance à faciliter la participation de ceux qui étaient déjà prédisposés à participer.
Et pourtant, comme on le rappelait dans l'entretien précédent, les modalités de vote, la manière dont on organise les scrutins et les modalités, y compris matérielles, ont beaucoup évolué, puisque quand on a commencé à voter à la fin du 19e siècle, il n'y avait pas d'isoloir, il n'y avait pas d'urne transparente. On a même eu des époques où il y avait des régimes censitaires. Donc on votait, on s'exprimait uniquement si on payait des impôts. Et aujourd'hui, est-ce qu'effectivement on n'a pas finalement un système qui est un petit peu essoufflé? On sait aussi qu'il y a des pays où on peut voter sur plusieurs jours, de manière anticipée, par correspondance, de manière électronique, et aussi où on reconnaît le vote blanc, qui est aussi une demande quelque chose qui est relativement plébiscité, y compris par les abstentionnistes.
Alors, sur les améliorations, finalement, des modalités de vote, ce qu'on voit, c'est qu'elles peuvent permettre, finalement, une redynamisation de la participation électorale, mais qui va surtout bénéficier aux groupes qui étaient déjà les plus participationnistes. Et on le voit notamment en France avec l'usage de la procuration, qui est peut-être l'un des rares dispositifs de facilitation du vote dont on dispose en France, va plutôt être utilisé par les cadres, par les étudiants, et par exemple beaucoup moins par des personnes issues des classes populaires qui pourtant sont aussi, par exemple, confrontées à des situations de déménagement et qui, elles, vont plutôt être dans une logique d'abstention puisque, restées inscrites dans leurs anciens bureaux de vote, elles ne vont pas penser faire une procuration ou tout simplement n'auront pas les réseaux sociaux pour refaire une procuration, etc. Pour le vote par Internet, on voit par exemple que ça peut favoriser une mobilisation des plus jeunes, certes, mais que va toujours un peu se mettre en place une mobilisation différenciée des jeunes les plus intéressés par la politique et pas forcément des jeunes les moins intéressés par la politique. Donc on voit que le fait d'intéresser à la politique, et notamment d'intéresser à la politique institutionnelle, reste un déterminant central, assez logiquement, de la participation électorale, et que la facilitation des procédures de participation, même si elle peut redynamiser la participation électorale, réduire quelque peu l'abstention, elle ne va pas réduire les inégalités face au vote. Et c'est ce qu'on essaye de dire dans les deux derniers chapitres du livre, hein, sur la procuration et le vote par Internet. Sur le vote blanc, le questionnement est un peu différent. Ce qu'on montre plutôt, c'est que ce vote blanc, il peut être un rejet de l'offre politique. Mais il peut aussi être un vote finalement de transitoire vers l'abstention. C'est-à-dire qu'un moment où, par attachement au vote, on continue à voter, mais de plus en plus, parce que notre rapport au vote, parce que notre intérêt par la politique décline, on va basculer, si j'ose dire, vers l'abstention, dans une logique plutôt de, non plus de loyauté, hein, on va voter, mais l'offre politique ne nous satisfait pas, mais plutôt, on continue à aller voter, mais on se dirige tout droit vers l'abstention, dans une logique plutôt d'exit.
Eh bien, merci Tristan Haut d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille et que vous avez diriger un ouvrage collectif dont le titre est « Extinction du vote » aux éditions du PUF. Et on sait, avec également votre collègue Vincent Tibéry, qu'on a eu le plaisir de recevoir dans une autre émission. Là, pour le coup, c'était sur la jeunesse. Vous voyez, on apprécie de recevoir les chercheurs en sciences politiques pour mieux décrypter les phénomènes de société. Et donc, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions.
Mais merci à vous.
Et à très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.